Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de votre présence pour ce workshop. Alors workshop, normalement, ça veut dire atelier de travail. On est un peu nombreux pour faire juste un petit atelier, mais c'est pas grave, on va prendre les choses comme elles viennent. Que nous avons souhaité, Ilona Delouette et moi, intitulé « Mesures d'impact social et impact des mesures » et dont nous allons prendre le temps tranquillement de vous fixer quelques-uns des enjeux et des raisons pour lesquelles on a eu envie de faire ces deux journées. Mais avant ça, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cette Maison européenne des sciences de l'homme et de la société. Et je remercie vraiment vivement Martine Benoît, sa directrice, de nous inviter, voilà, hein, c'est, tout ça se fait à titre gratuit, de nous inviter dans ce beau lieu qui est idéalement situé pour celles et ceux qui veulent reprendre ensuite des trains rapidement, etc., et en plein cœur de Lille. Je lui laisse tout de suite la parole pour qu'elle puisse vous accueillir à sa manière.
Bonjour, donc je vous souhaite la bienvenue ici à la Maison européenne des sciences de l'homme et de la société, qui est un lieu de l'interdisciplinarité et d'échanges. Moi, j'étais très heureuse que Florence nous demande de vous accueillir parce que ce projet-là, cet atelier, ce workshop qui va avoir lieu pendant deux jours est un projet qui est coordonnée avec la chaire ESS qui est hébergée à la Mèche avec laquelle nous travaillons de plus en plus, et puis avec un projet aussi PEPS du CNRS, qui sont des PEPS qui passent par les maisons des sciences de l'homme. De plus en plus, les maisons des sciences de l'homme deviennent des lieux incontournables de l'interdisciplinarité, et j'en suis très heureuse. Voilà, et donc bon travail et bonne réflexion sur ça.
Merci. Alors, nous ne pouvions être plus proches de l'actualité économique aujourd'hui, puisque le 24 novembre, c'est-à-dire il y a à peu près une semaine de cela, devant un parterre de quelques acteurs qui avaient été quand même triés sur le volet, Michel Sapin, ministre de l'Économie et des Finances, et Martine Pinville, qui est, je vous le rappelle, la secrétaire d'État chargée du commerce, de la consommation, de l'économie sociale et solidaire, et sans doute d'autres choses en plus, artisanat, je pense. Ils ont organisé une conférence sur l'investissement à impact social et ils ont signé les deux premiers contrats à impact social. Et je cite cette magnifique phrase que j'ai trouvée sur le site du ministère. « Grâce à ce mécanisme des contrats à impact social, qui ne pouvait, je pense, être plus explicite que ce qu'il fait, un acteur social, une association par exemple, pourra faire financer un programme... J'ai un téléphone qui sonne, pardon. Ne pourra faire financer un programme... Pardon, je recommence. Grâce à ce mécanisme des contrats impact social, qui ne pouvait être plus explicite, un acteur social, une association par exemple, pourra faire financer un programme de prévention par un investisseur privé qui sera lui-même remboursé par la puissance publique uniquement en cas de succès. Un contrat peut porter, par exemple, dit toujours le site, sur un programme d'accompagnement de mères célibataires en difficulté ou de réduction du taux de récidive de détenus à la sortie de prison. Alors, Ilona Delouette, doctorante, et moi-même, nous avons éprouvé le besoin de faire le point sur la question de la mesure d'impact, pour une fois plutôt à partir d'un moment un peu formatif, c'est-à-dire chacun d'entre vous prendra ce qu'il veut de cela, mais on a d'abord, nous, eu envie même de nous former un peu sur cette question, je dois dire. Donc, on s'est dit, idéalement, qui pourrions-nous inviter qui nous aiderait à faire le point et à cheminer ensemble intellectuellement sur cette question, et à vrai dire, ça a été formidable puisque toutes les personnes auxquelles nous avons pensé ont tout de suite dit oui, donc vous avez les first best de notre pensée en tout cas, et c'est vraiment tout à fait réjouissant pour nous. Et on avait envie, voilà, d'essayer de comprendre un petit peu ce qui était sous-jacent dans ce qu'on appelle parfois ces nouveaux dispositifs. Il faudra voir dans quelle mesure ils sont nouveaux ou pas, à la fois dispositifs de financement et dispositifs évaluatifs, et je pense que c'est justement cette imbrication entre financement et évaluation qu'il faut qu'on essaie dont il faut qu'on essaie de saisir l'enjeu complet. Alors, à vrai dire, pourquoi Ilona Delouette et moi, bon, on se connaît quand même déjà depuis quelques années, mais au fond, ça faisait converger chez elle comme chez moi des considérations communes, pourtant à partir d'objets différents. Ilona travaille une thèse sur le financement du cinquième risque, sur le financement de la dépendance des personnes âgées en perte d'autonomie. Et de mon côté, je mène des réflexions avec évidemment d'autres sur l'évaluation de l'utilité sociale, sur les glissements contemporains aussi autour de cet impact social, mais aussi je m'intéresse sur la performance des services publics et les critères de son efficacité. Et ça, le titre éponyme d'un de mes cours de master, et certains des étudiants sont là, donc ça doit normalement les interpeller un peu. Et je voudrais aussi vous donner mon point de vue, c'est que elle comme moi, on ne refuse pas du tout l'idée que les sociétés, d'une manière ou d'une autre, évaluent. Je pense qu'on évalue toujours un peu, et je vais essayer de m'expliquer quelques instants. La difficulté, c'est que, ou en tout cas, ce avec quoi on n'est pas tout à fait en accord, c'est que lorsqu'il s'agit d'évaluer des choses relevant du social, dans lesquelles je mets d'ailleurs les choses relevant de l'économie, il ne s'agit pas d'utiliser un double décimètre pour mesurer au millimètre près quelque chose qui serait l'écart entre un objectif, par exemple, que ce qu'on se serait fixé et des actions qui auraient été menées. Mais on entend vraiment l'évaluation dans une double acception, et ce pas de côté, il est vraiment important de faire pour les acteurs, pour les financeurs, pour les chercheurs. L'idée d'évaluer, c'est vraiment mettre de la valeur sûre. Il y a des tas d'auteurs qui ont donné un petit peu la genèse de ce terme d'évaluer. Mettre de la valeur sûre. À partir du moment où vous mettez de la valeur sur quelque chose, vous acceptez, vous assumez et vous êtes extrêmement lucide sur le fait qu'il y aura toujours un caractère normatif et donc politique de cette mise en valeur. Et donc l'idée qu'on a, nous, dans la tête, c'est qu'évidemment, le processus même de la mise en valeur engage des questions éminemment politiques. La deuxième, j'ai parlé d'une double acception, la deuxième acception qui me semble vraiment importante, c'est qu'au fond, évaluer peut signifier aussi s'ajuster dans des interdépendances les uns vis-à-vis des autres. On passe son temps à évaluer pour savoir si ce à quoi on est occupé est à peu près raccord avec ce qui est attendu de nous, à quels que soient les moments de votre vie, voire les moments de votre journée. Et du coup, accepter l'idée que des normes, des conventions, des règles agissent aussi ou interagissent sur la manière par laquelle on est attendu dans nos comportements. Et je pense que, évidemment, du coup il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et de dire, il s'agirait aujourd'hui de dire il faut stopper toute évaluation. En revanche, il semble que, donc on voulait pas mettre de côté cette question de l'évaluation, mais on voulait prendre cette question à bras-le-corps, en essayant de saisir en quoi l'évaluation contemporaine dans les pratiques du travail, dans les organisations, dans les modes de coordination des acteurs les uns avec les autres, financeurs, acteurs économiques, etc., acteurs publics, ces évaluations contemporaines sont extrêmement différentes de la définition, de l'acception large que je viens de vous proposer dans son double niveau, évaluation en assumant son caractère politique et le fait que l'évaluation, c'est aussi se mettre en capacité les uns et les autres d'être dans des interdépendances. Et donc, notre hypothèse, c'est que l'évaluation est de plus en plus hétéronome, c'est-à-dire qu'elle s'impose à nous en étant exogène aux acteurs qui doivent s'y plier. Et les usages ont aussi énormément changé, sans doute dans les deux dernières décennies. J'ai toujours du mal à donner une temporalité, mais voilà. Et l'injonction la plus nette aujourd'hui, c'est celle de devoir porter la preuve de son efficacité. Faire la preuve de son efficacité, sans doute parce que l'une des modalités de coordination des acteurs les uns avec les autres, qui était peut-être la confiance, c'est un drôle de mot la confiance, mais c'est peut-être ça aussi, être dans des interdépendances les uns avec les autres, eh bien n'a plus droit de cité dans nos sociétés. Et du coup, cette injonction nette à devoir porter la preuve de son efficacité se fait par le prisme de mesures de plus en plus standardisées. Tandis que, et il me semble qu'il ne faut pas laisser cette question de côté, parce qu'elle en est son corollaire, sa concomitance, peut-être sa causalité, mais on ne l'a pas démontré vraiment, tandis que les financements publics, en tout cas en France, s'amenuisent de plus en plus. Et je pense qu'il y a une concomitance extrêmement forte entre devoir faire la preuve de son efficacité d'un côté avec le fait qu'un certain nombre de financements s'amenuisent ou deviennent de plus en plus sélectifs. Et à vrai dire, ça fait déjà plusieurs décennies que des chercheurs en sciences sociales indiquent un peu que la réticence à l'interventionnisme public va de pair. Je cite Coralie Pérez, que j'ai retrouvée dans la thèse d'Arthur Jatteau, qui l'a soutenue brillamment hier, va de pair avec la nécessité pour qu'elle soit légitime de faire que la preuve soit faite de son efficacité. Elle disait déjà ça en 2000 à propos de l'évaluation de programmes de formation et d'emploi aux États-Unis. Alors, dans le même temps, il me semble que les évaluations sont des marqueurs et des opérateurs importants de la coordination entre des acteurs divers, ce que montre bien d'ailleurs l'idée que les impacts sociaux ne sont pas seulement des mesures quantitatives, mais aussi des contrats. Il y a quelque chose de très contractuel dans ce qui est en train de se passer, et les contrats, on sait, sont une modalité de coordination. Ilona.
Il nous a donc paru nécessaire, en fait, à partir de ces réflexions, de tenir ensemble deux questions. En fait, le pourquoi et le comment. Pourquoi en sommes-nous arrivés à requérir des acteurs historiques du champ de l'économie sociale et solidaire, et d'ailleurs des acteurs les plus récents du social business qui sont tous logés à la même enseigne, de devoir, pour être connus, faire la preuve de leur impact social? Qu'est-ce que cela dit, de manière plus générale, des transformations historiques dans les modalités d'argumentation de la chose publique? Du rapport des sciences sociales à la mesure aussi? Qu'est-ce que ça nous dit aussi des transformations contemporaines aux États-Unis, en France, en Union européenne, de ces changements sociopolitiques et économiques qui, comme le suggérera Joanne Tronto demain, en clôture de ce colloque, ne sont pas que superficielles, mais engagent des transformations d'ordre anthropologique? Qu'est-ce que cela dit, sans doute aussi, plus généralement, en fait, de la place conférée à l'expertise et en son sein de la science économique, qui s'autoproclame souvent comme la science de la mesure du champ social? Est-ce que les actes économiques et sociaux légitimes doivent forcément relever de ce qui est mesurable? Alors ne seraient légitimes que les actes qui sont mesurés. Les designers des méthodes d'impact social sont-ils en train de chasser le politique et son épaisseur démocratique du champ social pour lui préférer sa responsabilité d'expert designer? Est-ce qu'on doit considérer la mesure d'impact comme une perspective analytique et politique qui accompagne la narration selon laquelle l'espace de l'action sociale est un champ d'investissement et non un socle de dépenses publiques supplémentaires? Avec les contrats à impact social, nous créerons des résultats concrets en faveur d'une société plus solidaire. Il ne s'agit pas d'agir en substitution des services publics, mais de couvrir des besoins sociaux qui n'ont pas encore trouvé de réponse. Pour cela, le gouvernement a innové dans sa méthode en associant des financeurs pour amorcer des expérimentations et en introduisant une logique d'évaluation aux résultats de l'impact social de l'action, inédite jusqu'ici en France. Celle-ci n'est plus considérée comme une dépense, un coût ou une charge, mais un investissement en vue d'un résultat à la fois social et économique. Où doit-on, peut-on considérer la mesure d'impact comme une perspective analytique et politique qui accompagne les projets de transformation du social comme nouveau champ d'opportunité? Est-ce que c'est un peu des deux ou est-ce que c'est rien de tout cela? C'est un peu la question qu'on aimerait se poser pendant ces deux jours. Bien entendu, un volet « comment s'y prendre » enrichira pendant deux jours la question du pourquoi. Comment on mesure? Quelles sont les mesures les plus standards? Deux grands spécialistes de la question aujourd'hui nous présenteront leurs travaux à ce sujet. Est-ce qu'on peut mesurer autrement? Deux autres spécialistes nous présenteront demain leurs travaux à ce sujet. Nous avons la chance, et sommes vraiment très très honorés, d'avoir réuni ce beau panel qui a répondu positivement à nos sollicitations pour ces deux jours. Et la chance aussi d'avoir un auditoire très hétérogène, merci à vous donc, et nombreux, composé d'acteurs économiques, de chercheurs, des chercheurs y compris suisses, belges, états-uniens, italiens, mais aussi d'étudiants, on y reviendra. Sur la question du pourquoi, des chercheurs et des enseignants-chercheurs, historiens de l'économie européenne, économistes, politiques, sociologues, gestionnaires nous présenteront leurs travaux. Sur celle du comment, on aura un économiste du ministère de la Culture, une consultante sur l'impact social, mais aussi des chercheurs en sciences sociales qui accompagnent les acteurs de l'ESS dans les mesures alternatives. On n'a pas la prétention sur ces deux jours que tout sera réglé et que nous aurons des réponses ni à tout le pourquoi ni à tout le comment. Mais nous sommes vraiment heureuses, vraiment et très honorées que les intervenants de haut vol aient tous accepté d'emblée de venir participer à ce colloque durant ces deux jours. Et heureuse aussi que vous ayez répondu présente à nos propositions de contenu.
Merci. Donc je voudrais faire un certain nombre de remerciements. Parce que, évidemment, comme toujours, ces ateliers de travail nécessitent pas mal de monde pour pouvoir travailler, pour pouvoir trouver quelque chose, une organisation un peu efficace. Donc, d'abord, remercier grandement le GDR Policy Analytics, qui est porté par l'Université Dauphine et en son sein le LAMSAD. Et je pense que Alexis Tsoukas doit être quelque part et qu'il le dirige. Et évidemment, sans qui on n'aurait pas pu organiser cette journée. Il n'est pas là ? Ah, il n'est pas encore arrivé. Bon. Et donc voilà, bah, tu lui diras à quel point je l'ai remercié. Et je compte sur toi. Nous avons aussi bénéficié du soutien matériel de l'ANR Clean, qui est une ANR qui porte sur des questions assez connexes, donc je ne vais pas trop vous expliquer. En particulier, François-Xavier De Wetter, chercheur au Clercé, qui nous a accompagnés économiquement sur ce projet, ainsi que le PEPS Aglo, dont peut-être Béatrice Touchelet, qui le co-dirige avec Émilien Ruiz à l'Université de Lille 3, qui elle et Béatrice Touchelet est historienne au laboratoire UMR IRIS, nous en dira sans doute quelques mots lorsqu'elle interviendra dans la première table ronde. Et je voudrais remercier aussi, au sein du LAMSAD, celles et ceux qui ont joué un peu le rôle des petites mains. D'ailleurs, je suis un peu gênée parce qu'à Ouagari, voilà, notre consortium était un peu compliqué, mais à Ouagari, qui est la secrétaire administrative du laboratoire LAMSAD, qui est à Dauphine, je ne l'ai jamais rencontrée, mais on a dû s'échanger une bonne centaine de mails, puisque c'est elle qui a organisé l'ensemble de l'organisation administrative du colloque. Et vraiment, elle a fait un travail remarquable et je la remercie vivement, ainsi que Romain Touret, qui est doctorant CIFRE aussi au LAMSAD et qui a beaucoup œuvré pour les aspects en particulier de l'interface de préinscription et d'inscription du CNRS, dont vous avez pu expérimenter à quel point elle était vraiment facile. Je voudrais aussi remercier les directeurs de master, parce qu'en fait, on a eu envie de faire de ces journées une journée un peu formative, comme je l'ai dit, non seulement pour nous, mais pour les étudiants. Et donc, il y a pas mal de masters, je ne vais pas tous les citer, vous les avez en première page de votre programme, qui ont accepté finalement de glisser ces deux jours dans leur programme de formation de master 1, mais plutôt de master 2, de master hétérogène, enfin éclectique, d'histoire, de gestion, de sociologie, d'économie. Donc ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. C'est une manière aussi pour nous de développer l'intergénérationnel. Et puis, dernier point, pour nous appuyer sur cet intergénérationnel, on a eu envie de donner la parole aux étudiants, mais vous savez, c'est toujours compliqué de trouver la juste tonalité pour donner cette parole à des étudiants qui sont quand même encore souvent très jeunes, souvent un peu angoissés devant une telle assemblée, un tel parterre. Il y a quelques années, j'avais organisé un colloque avec le labo de l'ESS à Lille, et il y avait un groupe d'étudiants qui avaient présenté une enquête quantitative sur ce que pensent les étudiants, de manière comparative, sur ce que pensent les étudiants de l'économie sociale et solidaire et leur connaissance du champ. Et ils avaient présenté tous leurs tableaux, leurs camemberts, tout ça, ils étaient très contents. Et cette année, je me suis dit, il faut qu'on trouve une autre idée. Donc voilà, la solution que nous avons trouvée, vraiment, je remercie les étudiants du master à pièces que j'ai l'honneur de diriger. Nous avons proposé aux étudiants de faire des petites vidéos. Mais ils ont fait, donc, évidemment, pour que ça fasse des petites virgules de respiration dans ce temps très sérieux auquel nous allons occuper nos journées. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas vraiment pu suivre le travail sur cette dernière quinzaine et je les remercie vivement de l'autonomie avec laquelle ils ont travaillé. Et ils sont évidemment seuls responsables de la tonalité des propos qu'ils tiendront dans ces petites vidéos dont vous, j'espère, vous profiterez du caractère humoristique. Mais aussi finalement avec quelques petites informations qui distillent ici ou là. Et donc il y a 4 vidéos de 3 minutes, donc ça prendra pas trop de notre temps et en même temps ça nous fera de la bonne respiration. Et ce que je vous suggère, c'est que on en poste 2 aujourd'hui, un ce matin, cet après-midi et 2 demain. Et si vous avez aimé ceux d'aujourd'hui, ça fera du teasing pour que vous reveniez demain. Voilà. Donc, merci à vous. Bonne journée à nous tous. Voilà. Faisons de ces journées quelque chose de beau ensemble. Et puis, je vais tout de suite appeler Ted Porter à la, sur la scène, à la table. Vous avez vu que le workshop était un workshop international. Je sais qu'on a des Italiens dans la salle, au moins des Italiens, sans doute des Suisses, des Belges, évidemment. Mais bon, les Belges, ils sont quasi français. Et... je veux pas annexer, mais bon, ça a failli se faire en plus, hein, l'annexion d'un moment. Donc, Ted Porter, professeur d'histoire économique à l'université de Berkeley, UCLA, et qui nous fait la joie d'intervenir sur les nombres représentés intervenir. C'est, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même l'un des grands spécialistes de l'histoire des sciences sociales de la quantification et l'histoire des nombres et de sa prééminence dans la manière d'agir dans l'action publique notamment. Voilà, merci beaucoup, on est très honorés que vous soyez là et la parole est à vous. Bon.
So thanks so much for inviting me and to Lille and to this nice conference. And I'm a little embarrassed that I this wonderful French that I have, which is not too bad, but I can't really give a whole talk in French. So, but I'm very honored to be here. And actually, it seems kind of a miracle that topics so central to my interests should show up should be featured in a group of people that I didn't know too much about, and I'm very happy to have the opportunity now to do that. There we are. So actually, I should mention, I wanted to mention Ian Hacking, who from whom I took a class when I was very young, and who was part of a research group more than 30 years ago, in Germany, in the city of Bielefeld, he had written about history of probability and was now working on statistics. He had just finished this book, which seemed like a quite different book, called Representing and Intervening, a philosophy of science that took experimentation and laboratories seriously. That was still quite uncommon, and which interpreted the work of the laboratory as an intervention. It's a bit, so it has something in common with the way we are understanding measures now, that they intervene as well as describe what they are about. And I do not have a picture of Alain Tévosière, but who was not quite was already interested in histories of statistics, and soon became quite friendly with Ian Hacking and Lorraine Dastan and other members of this group, and so I got to know him as well. And he also was extremely interested in the interdependence between statistical work, that is the intellectual work of statistics, and the interventions implied by statistics, and the way the numbers shape in part what they are supposed to describe. They shape and describe at the same time, and what they describe can there is much talk now also, or perhaps especially in France, about performativity. That probably is just performativité, and which usually is taken to mean that a calculation or a numerical description might provide a model, might cause the, let's say, markets to conform to its prediction. And this is very interesting to me, but I like especially the more open category that Ian Hacking provides, in which the measure can also undermine its own validity. It can cause the measure to be false. It can lead to actions that are not in conformity with the measure, with the goals of the measure. So, Ian Hacking wrote about in this about natural experimentation, but measurement, the effects of measurement in the social sciences are also very important, and of course are central to, as topics of this meeting. As I say, performativity is about the reinforcement of measures and of calculations as a result of the of their articulation, and often in social sciences, in social administration, the use of such measures, that is, this indirect use of measures sometimes rather than direct administration, representing a special ideal of government, of governmentality, that sometimes it instead tends to cancel or to undermine the rules articulated, or the use of measures to guide action. So the human science also have their phenomena, which are like laboratories, and their interventions can be very effective. I think maybe this is an English language thing, perhaps not, that social scientists often speak of their lack of power, capacity to shape, in the way that the inability to do experiments, and certainly experiments are more difficult, but social science, and actually not just academic social science, also perhaps especially all the forms of social knowledge that link perhaps the university social sciences with forms of administration, certainly have a power to reshape. Though, as I say, not always in the way that they wish. The conditions of experimentation are always difficult. And numbers in social sciences, perhaps especially. So we have to think of statistics as measures, as instruments of social measurement, as instruments that can change the world. They act on the world as they describe it. I turn again to a paper you know of, a rather famous article about the unreasonable effectiveness of mathematics by the physicist Eugene Wigner. He was a Hungarian who came to the United States in the Second World, or before the Second World War, and was active in preparation for the war. And here he gave a famous lecture, of 50 years ago, about the effectiveness of mathematics, beginning with the assumption, which we might doubt, but that mathematics is a pure creation of human thought. And as a creation of human thought, it seems a miracle, so he says, more or less, a miracle, that it should apply also to the world outside, to experiments on Earth, and even to measures of the motions of the planets in the heavens, in the sky. So he asked, how is this possible? I put the Tower of Pisa because of the false belief that Galileo performed experiments of falling bodies there. But Wigner was impressed that the law that Galileo sets up Galileo as a figure who really showed the power of mathematics, and spoke of a miracle. He says, we're in a position, I guess I'll read in French. Nous sommes dans une position comparable à celle d'un homme qui a un trousseau de clés et qui, ayant ouvert plusieurs portes successivement, tombe toujours sur la bonne clé, la première ou la deuxième tentative. Il devient alors sceptique sur l'idée que chaque porte correspond à une clé unique. That is that, and his idea is that the non-independence, it shows that the mathematics somehow has a kind of unity that underlies all these wonderful, unexpected, answers, or this match between the mathematical prediction and what actually happens. But there's another way that, from a statistical standpoint, and actually I would again mention Ian Hacking a little bit and Nancy Cartwright, who emphasize how the match between the mathematics and the positions of the planets also depends actually on a whole body of more subtle things of techniques and of corrections of statistical tools of approximation devices. And these, perhaps, that is to say, these other little interventions are also quite important for this miracle of mathematics. Again, we have a more complicated relationship between numerical prediction and the phenomena it regulates. Well, Wigner has a nice little story in this paper about a conversation between two kinds of people. One of them, a scientist or mathematician, as I said, demographer or statistician. The other, a humanist, I think he says, an arts student, a nice English as opposed to American phrase. And he asked the statistician what he's doing. Well, he says, performing calculations on human populations. What's his symbol? The humanist asks, oh, that's just pi. Yeah, the measure of the ratio of the diameter of the circumference to the diameter of a circle, and the humanist laughs and says that's ridiculous. What possible relation can there be between the circumference of a circle and a population? So statistics actually kind of comes back and becomes part of the miraculous match between the mathematics and the object, though actually it's not exactly that way. My teacher Charles Gillespie observed that the kind of reasoning of statistics emerged in fact in the social sciences and was later used by natural sciences. Again, actually a very natural origin, in fact. So rather than a pure mathematics, a pure product of the human mind, we have a statistical mathematics, a product of the intervention of savants and mathematicians with the world, developing these tools of analysis which should regulate the errors, but also actually eventually natural populations. And that's perhaps, for Quetelet, this was a miracle of the sort that Wigner was talking about, though we again have to see also the hard work of matching, which doesn't reduce to pure mathematics. But he was, very impressed by the emergence of the normal curve, the distribution, the Gaussian distribution, regulating not just errors but also real characteristics of human populations. Another one that might be taken to be, well, not just a miraculous match of mathematics and experiment, but an even unreasonably effective one, which also, however, can undermine itself, as I have said. Official statistics are often understood as perhaps this is a. Again, Ian Hacking wrote about this, but he was very impressed. He was one of the first in English language to be writing influentially about Michel Foucault, that the power of, who saw the power of the statistical argument as a kind of a form of bureaucratic control. Quantification, but however, has been often actually used in the other direction by, let's say, populations, by reformers and critics, also to undermine and to criticize the control of the bureaucrats. And there's more interest in this aspect of quantification now. This line I have a line that Rousseau used, Jean-Jacques Rousseau used already in 1762, which you can see up there. But he says more or less that if we want to know whether a society is well ruled, whether the government is effective, we need only ask one simple question. Is the population expanding or is it going down? So, calculateur, he says, c'est maintenant votre affaire, comptez, mesurez, comparez. And that is for Rousseau, that's a basis for judging a state and not simply the power of the state. Unless the state can redefine the numbers, the state should be vulnerable, should be subject to judgment by the quality, not the match of numbers to reality, but the producing good numbers. This is before Thomas Malthus, a bit later, understood the growth of population as a thing that was more to be worried about, that population could be out of control. Worried that letting the population grow too large would subject it to or make it more vulnerable to famine in times of unhappiness. So not everybody agreed with this Rousseau, but that was a very common understanding. So we have two kinds of statistics, or perhaps two faces of statistics. And one possibility is that statistics are highly technical, a kind of highly technical knowledge which ordinary citizens perhaps can't understand very well or can't use very well, and this perhaps would match the idea of, which is kind of Foucault's idea, that statistics is a power from above used to shape populations. But there also actually is another kind of statistics, which is very important, or another kind of use, which is always simplifying. And perhaps it also is a subtle way of controlling that we are given numbers, key numbers, numbers, significant numbers that we become familiar to and that can be assessed, can be used in a way like what Rousseau proposed to judge the quality of government. But this is a kind of judgment which can escape the control of those who want to use it, and has often actually been criticized by statisticians and quantifiers as really suited for those who don't understand very well, so that the really sophisticated persons don't depend on the don't automatically accept the number, but rather have a more subtle understanding. So I don't know if anyone here has heard of this Lies, who writes a history of or a book on statistics in the early 20th century, and continued to use to give this line for in additions into the 1930s. If I can just give me a second to get some water. Rather skeptically, assurément, nous sommes loin du rapprochement simple, brutal, mais faux de deux chiffres. Il faut ici pour mener l'opération assez complexe de comparaison, une attention soutenue, un esprit préparé tout au moins à la relativité des choses. Au point de vue de l'effet sur le gros public, l'argument perd de sa force à mesure qu'il comprend plus de données, plus de termes à rapprocher. Les problèmes de statistique ne sont pas question d'arithmétique élémentaire à l'usage des foules. It's not, these are not simple questions of arithmetic for the crowd. They are to be interpreted by experts, he says. So he turns this simplifying judgment back again into complexity. And so he says, you know, that more that you never, along with the these basic statistics, these simplifying statistics, are always adjustments and reinterpretations that require expertise to perform well. So we have this, you know, this back and forth between complexity and simplicity. And I think Lies's idea is interesting, or is especially interesting to me, in part because he still assumes that it is in the capacity of the experts to interpret the numbers, that there is no force of the numbers standing in that will be understood and assessed by the people in which the experts would retain their capacity to interpret and to use with expertise. So, Alain de Rosière called attention in one of his late works to the different kinds of numbers that are appropriate for different kinds of political situations, and suggested that for the circumstances of neoliberalism, tools like benchmarks and indicators are most appropriate. Those comments and the discussions that followed them got me interested in indicators, and back to the word actually is this extremely interesting one. I give you here a little quotation from a literary book about this amazing bird. The first indicator is first just the muscle that with which you point, but then this quite funny a passage of the bird which in South Africa, here credited to the Dutch populations, but surely known before that to native Africans, to the Kikung, who tell of this bird that flies to a hive, makes a lot of noise and attracts either the badger or actually humans to follow the bird to the hive, and indicates where the hive is. So that the people can then, the local people can feed on the honey, but they should leave a little bit for the bird, so that it won't give up its, won't abandon this kind of work. And this author, who is has a literary journal, points out this is almost impossible to believe, but it turns out that the thing is really so. And so the role of the indicator is, again, actually to point to the thing, and it's very important as the commentators on this bird pointed out, not to betray the bird or the indicator might lose its validity. So we have this, so that's a funny story. And actually, I don't know if, I reacted as I was supposed to when I first found this story. That is, it can't be true, but it does seem as if it really, there really is such a bird, and you go into the botanic or the ethnological libraries, and you find, or now you can do it online, and you find this bird quite precisely described. But the question is, how do indicators preserve their validity? Can the indicator retain its accuracy in relation to the object itself, which it is supposed to measure? If the bird finds the honey or leads to honey and is satisfied, then the indicator can maintain its value, but perhaps they sometimes wander away from their value. Well, there's a whole development again of uses of indicators, from steam engines and indicator diagrams until they make their way to economics, social science. When in the early 20th century, but perhaps especially after the First World War, and in the 1920s, but before the Great Depression, there was a whole a considerable effort to develop indicators that would allow an escape from radical economic cycles, from economic fluctuations. Here I rely on another person who was present back in the 1980s at this event, Mary Morgan, who has a discussion of this in her book on the history of econometric ideas. And it was an American project, especially of the president, actually then the Secretary of Commerce and then President Herbert Hoover, to create indicators that business, so he has a special idea of economic planning, which maybe is a bit neoliberal, avant la lettre or so, in which instead of the government engaged in forceful planning, that they would provide measurements which could be used by businessmen, and now these businessmen would be directing large corporations rather than small companies, and they would be studying the numbers, and they would have follow the statistics which indicate a decline in production or a decline of economic activity before it actually happens. And these funny graphs, we can't really look at them in detail. Their outstanding characteristic is that they seem utterly heterogeneous. Every kind of emotion, seem to appear early in an economic cycle, which would form the economic indicator, out of which you could create an index of economic indicators, which should provide, again, allow actually the private sphere, the private corporations to respond quickly and to mute the cycle rather than to exaggerate it. So this Herbert Hoover was the Secretary of Commerce in 1928. He was elected president. He became president in March of 1929. It seems that everybody is very optimistic about the possibility of economic cycles. And then, not very long later, the thing collapsed. So the economic indicators lost their validity and even misled people. Well, for a long time, we've had these measures of economic activity, which were quantities which would allow states to, one hoped to regulate the economy more effectively. Among the most important of these was the measure of gross domestic product or gross national product, which arose in the context of this of the Great Depression, and also was very important for organizing for the Second World War. Actually, there are such forms of activity in many countries, and the victors, you know, defined the standards. So the Anglo-American one became very important after the Second World War. So here to create a rationality of economic decision making. But the relationship, the match between the indicator and the thing it describes, can become a problem. Here I again recall the question that can the indicator make the world correspond to it? Do we have a performativity that reinforces indicators, or do we have a danger of the thing being undermined? And along with that, if the indicator can't be counted on to perform absolutely reliably, then we ask, does this, Lies, who says that it's just that these numbers, these rigid numbers are just for crowds, for ignorant people, and that real experts can modify them, do the experts actually command the knowledge, and do they retain the power to make those modifications, or does the indicator do the measures acquire a power of their own that are difficult to rein back in once we've set the process in motion? Or I like to say there are spaces that the indicators always create. That is the perhaps slight inaccuracy or the exploitable inaccuracy between the indicator and the thing itself. It's not just that it doesn't match perfectly, it's that people seek advantage by altering or by deviating from the indicators themselves, by exploiting the ambiguity of the indicators or exploiting the mismatch between the indicator and the thing that we wanted it to indicate. So perhaps we have a contract and we work to achieve the value prescribed by the indicator, but it doesn't actually achieve what we wanted. That's exploitable ambiguity. It may be advantageous not to achieve what the indicator was supposed to measure, but some other result that we don't want. Well, gross domestic product. They're now I have two pictures of books, and I know now of four or five books about. There's a famous one, which Sarkozy created to criticize the reliability or the value of this measure of gross domestic product, and then several histories now, and some of them are, you know, sympathetic and friendly, and some are bitterly critical. I have the black book by Diane Coyle. If you can read, she calls it a friendly history or a appreciative history of gross GDP, and the other book is actually extremely critical and looks to the terrible results that can be brought about by the mismeasure of productive activity in the GDP. And even Coyle says it was a measure designed to fight the Depression and to fight organize the economy for the Second World War, and many aspects which are very inappropriate for other use. It certainly, she says, doesn't measure what we want. So it's a kind of a misleading indicator, perhaps. Philipson's perhaps strongest critique is that he's very concerned about, some famous failures of the thing, the failure to measure the traditional work around the home, which was often the work of women, but perhaps especially now the failure to give account to environmental values. So any kind of a interest rate or discount rate reduces the value of what happens 100 or 200 years from now to almost nothing, to a mere a rounding error, so he sees, you know, many, and we would too, aspects of the, I mean, much that the indicator of GDP favors is actually, would hardly be what we would want if we were able to rule or to direct the economy ourselves. So a more general point, this law of, actually this so-called law has been articulated more than once. Donald Kemble was a social psychologist, but there's an English banker also who said something like this about the indicator, that the as soon as an indicator comes to be used to reward and punish, that is to say, is given power, it will cease to be a good indicator. And why wouldn't an indicator be a good one? Because at that point, people begin exploiting the ambiguities of the indicator, and find ways to alter what they do to undermine the accuracy of the indicator. Ideal of the measure isn't only what the for the individual. This ideal of measurement is can be legally constraining. Lies's hope that the expert can, or really understanding that the expert can now use the numbers sensibly so they are appropriate can't always hold up in the face of an indicator which is going to be the basis for rewards, is going to have some kind of legal standing. So the the indicator can actually lead to a modification of priorities that nobody really had in mind in defining it in the first place. Can actually have very unfortunate effects. I think of there are all kinds of examples that one can think of indicators that have gone astray for some reason. I have welcomed. I've had the opportunity to participate in some little conferences and workshops on educational measures, and educational measures are very prominent now among the uses of indicators that seem to be troublesome. Of course, an educational measure which aspires to reduce the performance of students in different countries under different educational systems is going to be difficult. It aspires to be a neutral measurement to allow schools that use different programs to have different curricula, yet to be judged by a common standard. But it could be sometimes that a thing regulated by heterogeneous laws and different systems is not easily measured by the same standard, and even when they reduce it to perhaps, mathematics has always been well suited, or in the old days, ancient languages seemed to be suited to be neutral with respect to culture and to be capable of being evaluated, rigorously and accurately. In fact, these different systems often reflect different ambitions and are integrated into different kinds of teaching programs, so that first of all, far from clear that the measurements are accurate or real accurate measures of the merits of the schools. And they can even lead to results that nobody really wanted, or nobody really can want in their use. The PISA measure is used all over much of the world and is very influential, I think, in Europe. We had in the United States a law called No Child Left Behind, which which was to judge schools by the performance, by the perhaps the performance, but ultimately actually the average students, but ultimately of the weakest students. It led, of course, to, because no child left behind. Every child is supposed to measure to reach a certain standard of education. Immediately, they had to find exceptions. That is, some students were not capable of learning, so they had to be taken out. And then, by creating a particular level that would count as sufficient, then there's no incentive anymore to provide better schooling for those who would have greater interest or more capability. And this actually, finally, but the rigidity of the standard that no child should be left behind, finally left, after much damage was done to schools, trying to perform to the measures, that rigorous standard, that rigid standard, was sacrificed. Before that, it became almost necessary for school systems to take up cheating. And there's some famous examples. The poor teachers in a school in Atlanta, Georgia, eventually took their tests, these examinations, and were remarking them in closed rooms, it's kind of criminal behavior. But from the teacher's standpoint, they had done everything they could, and their school would be closed because of failure to meet a standard. So the rigidity of such a quantitative standard can not only be extremely damaging, but can almost force people to cheat, and that was what happened. And at first we condemned the schools that would do that. Actually, it's a complicated story, but a very clever school superintendent who won a wonderful reputation for seeming to achieve all these goals, and then it turns out that she's forcing the teachers to, firing teachers who can't realize it, and forcing them to cheat in order to meet the standards. The problem of statistics of comparative education so many things is to use numbers to judge, homogeneous numbers to judge things which are actually not homogeneous, or to force a judgment based on perhaps the wrong thing rather than what we really want. That is especially true, again, in institutions that may have legitimately have somewhat different goals for their schools, it invites exploitation and even cheating. I have this nice new book by my friend Wendy Espeland and Michael Sauter on law school rankings in the United States. I don't know that you want to hear a long lecture on law school rankings, but they again are all they could have quite different ambitions. A non-governmental, that is to say, a news magazine, introduced a ranking system, and immediately it's producing. It provided for law schools a standard which the students came to accept, and so the schools became terrified. Going down a few places or up a few places in the law school rankings could have terrible consequences for them. Immediately they reverse engineered the system and began altering their admissions patterns and their instruction patterns and the way they treated the students afterwards in order to produce the best possible measures. The law schools feel powerless, and almost all of the law school deans hate and condemn this measurement, but yet they're stuck with it. And this is not even a state measurement, but just a private ranking system which provided credibility to these. Actually, we can think of Lies again, for these students who do not have the subtlety to reassess the numbers to apply their wisdom to the numbers, but who follow it routinely. And now the law school deans are also powerless to use the numbers more wisely. And a measure which might have a certain degree of merit, if it were only a broad indication when people follow it routinely, became a kind of had a terrible effect on legal education. So it isn't enough just to criticize the numbers for their validity. The greater thing is to understand, the impacts of these numbers. They provide information, but they also provide systems of incentives, which might which amount to an intervention and can have favorable or unfavorable effects. Well, for my last slide, I give you something in French and this wonderful, movement, which has its representation in Lille, and certainly in France, but should be widespread. Stat activisme, would aspire to aspires to provide numbers that allow, people to fight back or to defend their interests. Perhaps not by reducing everything to a few indicators, though sometimes the indicators might be effective, but providing information about distributions of wealth or effectiveness of teaching or all the things that we care about that allow, that should inform activities on the part of the poor, of people who are not benefiting from states, from people who are victims of the economy, to have the numbers that they can use to improve their lives. So this talk has emphasized the shortcomings and the ambiguities and the exploitation of numbers, but numbers can be used also can be instruments of making the powerless more powerful, and that is something we can aspire to if we're interested in measures and their effects. So thank you very much.
D'abord, ce que je dois dire, c'est que vous avez eu la double légitimité de bien connaître de l'intérieur ce que peuvent faire les chiffres, parce que je pense que les États-Unis en sont envahis d'une part, et deuxièmement, vous avez aussi la légitimité de cette perspective historique que vous nous proposez, en vous limitant pas non plus simplement à cette perspective historique. Et du coup, ce sur quoi vous insistez, c'est que la statistique, elle a toujours une double facette. Une facette de description, et une facette d'intervention. Et les données, elles décrivent autant qu'elles formatent la réalité qu'elles cherchent à révéler, en quelque sorte. Et je pense qu'il faut vraiment que chacun ait toujours ça en tête, cette double facette de l'ensemble des données statistiques, ce qui permet d'évacuer l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une adéquation totalement miraculeuse. Je reprends aussi des terminologies que Ted a utilisées, une adéquation miraculeuse entre une réalité à révéler et puis des statistiques qui viendraient les révéler d'une manière uniquement technique. Et que les statistiques ont toujours besoin d'être équipées d'expertise pour être interprétées. Une statistique en soi ne va rien dire, mais elle a toujours besoin d'être équipée. Et cet équipement, finalement, vient aussi dire quelque chose de la manière par laquelle on veut l'évoquer. Je pense que vous pourrez réfléchir aussi à ce joli vol de l'indicateur, cet oiseau qui vient identifier où se situe le miel et qui, en contrepartie, attend aussi des bénéficiaires qui lui laissent une petite partie. Et ça montre peut-être que derrière les indicateurs, il y a aussi peut-être une relation d'interdépendance qu'on n'avait pas imaginée jusqu'ici. En tout cas, il y a une belle image ici à continuer de filer par la suite. Je terminerai simplement. Je suis très, très contente que vous ayez fini par cet activisme parce que Géraldine Thierry, ici présente, et moi-même, on est très engagé, on a été très engagé dans un forum pour d'autres indicateurs de richesse, dont d'ailleurs un chapitre de cet activisme rend compte sur la manière de compter autrement et en se disant, c'est un peu la devise de cet activisme, œil pour œil, stat pour stat. Voilà, comme ça vous aurez tout compris. Œil pour œil, stat pour stat. Voilà, je laisse maintenant la parole à la salle. Si toutefois ça vous intéresse de pouvoir poser quelques questions, on va le faire de manière limitée. On a évidemment 2 jours, mais on va prendre 3-4 questions si on arrive à être raisonnable. Je pense qu'on peut poser les questions en français doucement.
Oui.
Sinon, je traduirai, mais j'aime autant ne pas le faire. Juliette Rouchet, ensuite Nicole Alix.
J'étais très intéressée par votre Space of Exploitable Ambiguity. Et en fait, j'avais des questions qui étaient peut-être plus d'ordre sur les sciences autour de ce que vous avez présenté, savoir si, dans les sciences cognitives, psychologie, psychologie sociale, on comprend mieux maintenant cette fascination quasiment magique pour le chiffre. Parce qu'on est dans une fascination magique, enfin, la plupart du temps, puis c'est ce que vous disiez à propos du GDP, une fois qu'il est là, on y croit, et on n'essaye même pas de comprendre ce qu'il veut dire. Et moi, je trouve qu'il y a un espace assez paradoxal aussi, c'est quand je fais du terrain, je me rends compte qu'il y a à la fois une croyance dans les statistiques habituelles, auxquelles les gens sont habitués, qui est très très importante, mais si on déconstruit, il y a un affolement. Et si on apporte des statistiques d'ordre nouveau, c'est-à-dire des indicateurs inconnus jusque-là, l'expérience personnelle individuelle reste plus importante que l'indicateur inconnu. Donc il y a des moments où c'est mon expérience personnelle qui va vraiment avoir de la valeur et l'indicateur, si j'y suis pas habituée, les chiffres me font peur. Et il y a d'autres moments où je suis plutôt dans une position de croyance absolue et sans discussion. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, est-ce qu'il y a des savoirs sur ce qui se passe là, dans cette relation ?
So, I mean, I don't try to... I mean, no doubt there are things to say about the psychological, you know, appeal of numbers, and I like to think more, to work more from the kind of political, you know, the political appeal that, I mean, I don't think people often say that you know, numbers became, or mathematics became powerful in science, and then, so we think they should apply to social science, and I think that in social context, numbers acquired power. You know, the kind of that simplicity has an appeal. You know, a public appeal. You know, in so it, at least sometimes for ordinary people as well. And then the question: what do people make of the? I mean, how what's the balance between the? The public numbers, people's use of public numbers and what they see around them all the time. I often wonder, it seems as if, you know, when this GDP, when it goes down a little bit, it hardly seems impressive as a decline. And yet, and are people responding to the number, or are there enough people who respond to the harder conditions that they face? So do people's experience match the numbers, or do they believe the numbers because they experience some of these things themselves? And it must be some combination of these, and I would like to understand that relationship better, because you know, with the massive diversity of things that many people's experience would not match the numbers. Of course, the numbers themselves are then discussed and reported in, you know, in the news, and now, you know, in people's on the web. So we have a number of various kinds of experiences of the things the numbers describe, not all of which would seem to go in the same direction. And I think it's a nice project for people to figure out. And I'm sometimes a little surprised that the numbers, the changing economic numbers can be interpreted as so decisive. But, yeah.
Sur les questions que vous nous avez expliquées, est-ce qu'il y a des débats dans le monde académique? Est-ce qu'il y a des débats entre le monde académique et la société civile aux États-Unis sur ces questions? Et est-ce que vous avez des indications sur des débats qui existeraient dans d'autres parties du monde, du côté de la Chine ou du côté de l'Inde, sur ces questions?
You know, we have GDP, but what is the, you know, how is that affecting people differently in different kinds of positions or different levels? So it rarely, that kind of discussion rarely rises to the point of asking about the value of the numbers in general, but particular numbers are criticized, and certainly sometimes people, so it's a very disorganized kind of discussion. And you know, some particular things, actually, these law schools, but or the education measures are, again, perhaps produced enough trouble that they are discussed and challenged. I'm trying to think what else. So I think it's important to have these discussions. It's especially the use of the numbers as incentives, that we try to attain good numbers. Do the numbers really correspond to what we want? It's a very important topic, not only but especially neoliberal kinds of government really depend on, you know, the way to, or let's say new public management depends on using the numbers to judge the performance of our institutions, rather with a reduced, intervention by the state, or a more indirect intervention, and that I think has produced the systems for this, exploitable ambiguity, which I think is necessary for us to appreciate. But not that much discussion of particular topics, and I think somehow it's important to, to retain, the value, the great value of numbers, but to recognize their limits and their vulnerability to exploitation. Somebody else perhaps can talk about China. My son studies China, so I'll call him up and ask. I don't know.
Je résiste pas à poser une question d'actualité politique, notamment sur les élections américaines, et donc notamment sur, effectivement, vous avez souligné l'importance des statistiques dans le débat public, mais est-ce qu'il n'y a pas un retournement et une défiance d'une partie de la population sur une prolifération des nombres? Et est-ce que, je reprends ce qu'on a entendu dans les journaux en France sur l'élection de Donald Trump et le fait que les fact-checking faits par les journaux à ces propos, finalement, en essayant de prouver par des nombres et des statistiques qu'il disait des choses qui étaient erronées, n'a pas eu finalement beaucoup d'influence sur le résultat. Donc la question, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui effectivement une défiance vis-à-vis des statistiques et de la politique et de l'expertise statistique dans le débat politique aux États-Unis.
Hillary Clinton won the popular vote. We seemed also to be incapable of counting our votes. So that was, in the year 2000, we had, the whole election depended on 100 votes or something, and that depended. And then, did you count the ones that had had an indentation but no hole in the ballot and things? So, I think we don't yet know the story as to why the predictions were wrong. The Clinton campaign suggested that it was the reappearance. I mean, actually, that the numbers had been right, and that there was a very late movement in the population. But the other possibility is that people who were asked didn't want to identify with Trump, even though they intended to vote for him. Your question also asks about. About the way people argue about these numbers, it's kind of terrible and alarming that all the deliberate disinformation that appears especially on social media, but also in some of the regular press, so that the It's almost a kind of, I think of it as almost a crisis of truth that we are experiencing. Trump goes after the election, so he wishes he won the electoral vote. That's probably almost certainly the case, but he lost by a lot. The popular vote, counting every individual, not in the places they were. Well, he doesn't like that, so he says there was a. He says that there were 3 million stolen votes, and he has no basis for that. And people, I don't know if other people care whether, whether we speak, whether we say defensible things or not. So I find it's one of the. I don't know if it's the worst thing, but it's one of many things that. That I find terrifying about this, about the election of Trump, which is very difficult to understand. But he probably did. Well, no, we also fight about how people can essentially the Republican states that tried to deprive some people of the vote by requiring certain forms of identification. These things are. kind of complicated, and wouldn't be that interesting, except that they are in fact very potent in determining the outcome of elections. So, somebody needs to watch over the numbers. We don't even have agreement on the numbers, or we don't if you pay attention, but the public debate doesn't reflect that knowledge.
Okay, so I'm an economist by training, and during my training in London, we read a number of papers about the use of incentives in healthcare systems, public services in particular, and I just wondered if you knew the paper by Holstrom and Milgram, 1991, which essentially echoes a lot of the messages that you were putting forward here. So economists have had in their head for a long time that if you put a lot of emphasis on what can be measured, then you throw out of whack all the other types of incentives on the less measurable things. So I find it curious that this result has been here for a while, but yet there are large swathes of public policy, and not just public policy, in the voluntary sector as well, where this result is not put into place. And I wondered if you could give us some insight into why.
I've seen critiques of that kind about the you set a standard that everybody should see their who wants a certain kind of condition treated should be able to see a doctor within a month or a week, and then you get you can draw the curves of actually of how long it takes, and if they get under a week, so there's a big lump just there, and then if they didn't get treated by then they're ignored for a long time. So all these every kind of incentive which seems as if it should improve things actually creates strange practices of and actually I don't know I was once train systems are judged by what percentage of the trains arrive within 10 minutes of their 5 minutes, and then if your train gets, I was on a train in Switzerland of all places, and it was 10 minutes behind, and after about 4 stops, they count every stop as a delayed train, so after 4 things, the train broke down, maybe. And we got off the train, and the next train came by on time, but a half an hour late for us. And I actually don't know whether, it was natural to suppose that other people on the train thought of this too, that this was improving the measures, because this train, once it was broken down, was no longer missing the time on every at every stop. So, and I we suspect that this is happening a lot. And why it's somehow necessary to, all this is discussed so well, and it's so it's discussed, and yet the ambition goes on. But there, there is a plausibility to the ideal that we try to judge rather than regulating in detail. We let people who are our institutions, which are doing something, try to achieve good ends, and we judge them by how successful they are at that, and it's just not easy to define those in such a way that that they lead to the results that we want, or they would be pretty good, except that the numbers are being gamed all the time. So, yeah. Thank you for that. Thank you for pointing out that example.
Et donc on peut le réapplaudir une fois encore, me semble-t-il.